il faut pas négliger le fait qu'on a beau avoir une armée ultra technologique, du matériel de pointe, tout ce qu'on veut, à la fin du jour, la guerre, c'est un flingue et des tripes.
Commandant, merci de me recevoir au sein du commando Hubert. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je suis le commandant du commando Hubert. J'ai eu la chance de servir dans cette unité et au sein des commandos marines depuis à peu près 13 ans. Et avant ça, je suis rentré dans la marine via l'école navale. Puis j'ai servi sur les bâtiments de surface avant de choisir la filière des commandos marines. J'ai servi pendant 3 ans à Lorient avant de faire le cours des nageurs de combat et ensuite de progresser au sein du commando Hubert. Et après quelques années hors de l'environnement commando, de revenir pour commander cette belle unité.
Est-ce qu'il vous viendrait un souvenir de mer, une expérience que vous pourriez nous partager ?
J'ai le souvenir d'une opération où j'ai eu l'occasion de m'infiltrer à bord d'un tout petit Zodiac, les Zodiac Futura, que vous avez pu voir quand vous avez visité le commando tout à l'heure, de nuit, face à une côte qui ne nous attendait pas forcément. Et pour mettre à l'eau 4 de mes camarades, en toute discrétion, tel qu'on l'apprend au cours nageur. Et j'ai le souvenir ému de voir ces camarades avec qui on a partagé pas mal de choses, et qui, cette fois-ci, ils vont pour de vrai, se mettent à l'eau tel qu'on l'a appris, en toute discrétion. Et le souvenir de voir leur tête s'immerger, et ensuite de constater le silence au ras de l'eau, et de savoir que, dans la nuit, quelques dizaines de minutes plus tard, ils allaient arriver sur l'objectif sur lequel on avait planifié pendant des jours et des jours. C'était assez exaltant de savoir les copains sous l'eau en train de progresser, savoir exactement où ils en étaient, ce qu'ils faisaient, pour l'avoir vécu des dizaines de fois à l'entraînement avec eux ou avec d'autres. Et ça, ce souvenir de les voir, d'apercevoir la côte pas loin, c'était assez émouvant. Et alors le plus exaltant, c'est quand on les voit revenir. Quand on se retrouve sur le point de rendez-vous, toujours en pleine discrétion, et qu'on voit leur tête sortir de l'eau avec un énorme sourire, ils renvoient l'image d'avoir joué un bon coup à ceux d'en face. On a presque l'impression qu'ils sont partis entre copains pour rigoler. C'était tout sauf une blague. C'était un moment fort.
Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu sur le commando Hubert ? Sur son histoire, pourquoi ce nom ?
Alors le commando Hubert, créé dans les années 50, à l'origine c'était le premier des unités de commando marine qui était parachutiste. Et puis ensuite toutes les autres unités de commando marine sont devenues parachutistes. Mais on y a mis rapidement des nageurs de combat qui ont été la spécialité, le métier de nageur de combat en France a été créé en 1952 par le célèbre Bob Maloubier et le non moins célèbre commandant Claude Riffaud. Et donc à deux, donc Bob Maloubier qui était issu plutôt des services et de l'armée de terre, et le commandant Riffaud qui lui était officier de marine, se sont dit toutes les autres nations ont des nageurs de combat, il faut que la France en ait, et ils ont monté ce qui est devenu le cours nageur de combat à partir de rien. Et donc les nageurs de combat de la marine ont été reversés petit à petit au commando Hubert, et c'est devenu la spécificité du commando Hubert. Et le commando Hubert porte son nom en hommage au lieutenant Augustin Hubert, qui a été tué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, qui était un type extraordinaire, et tous les commandos marines portent le nom d'officiers français qui ont été tués au combat, que ce soit avant le débarquement, pendant le débarquement, ou alors en Indochine.
Justement, est-ce qu'il y a un lien transgénérationnel fort, encore aujourd'hui, au sein du commando ?
Le lien est très fort. Quand on rentre au commando Hubert, Ça marque à vie, ça, forcément. Et puis ensuite, les gens peuvent poursuivre leur carrière assez longtemps. Certains, ils sont restés plus de 30 ans. Et ensuite, après avoir quitté le service actif, ils sont devenus réservistes au commandant Hubert. Donc on peut faire un peu sa vie. Ce qui est très marquant, c'est que l'identité reste. On a un vrai lien entre les jeunes et les anciens, notamment grâce aux réservistes qui sont généralement arrivés à Hubert l'année de naissance de ceux qui viennent d'arriver. Et il y a une vraie communion autour de ça. Hubert, c'est une famille. On s'en détache pas et ça marque vraiment.
Comment est-ce que vous honorez la mémoire de ceux qui sont restés au combat ?
Alors le commando Hubert a perdu plusieurs hommes au combat depuis notamment la guerre d'Algérie et puis plus récemment au Burkina Faso avec Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Leur souvenir, il est présent au quotidien au sein de l'unité, plus particulièrement des deux plus récents, puisque la moitié de ceux qui sont encore ici ont fait leur corps nageur avec eux, leur stage commando, ont servi pendant des années avec eux. Donc le souvenir est vraiment extrêmement fort. Donc hier, on a marqué l'anniversaire des 4 ans de leur mort pour la France au Burkina Faso, pour libérer les otages français. On fait des petites cérémonies pour se souvenir, on trinque à leur santé. Et alors il y a un challenge sportif qui s'est décliné et qui a fait tache d'huile au sein des armées, le WOD. C'est une manière de se rassembler et de souffrir un peu ensemble, en pensant à eux, en pensant à tous et à tous nos autres camarades de la marine et des autres armées qui sont morts au combat ou qui sont blessés au combat. Et aussi, c'est important, je trouve, de penser aussi à tous ceux qui étaient au combat avec eux et qui sont revenus. Alors au moins en apparence sains et saufs, mais qui sont forcément marqués parce qu'ils ont vécu une opération.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer au commando Hubert ?
Pour rentrer au commando Hubert, il faut avoir très envie de rentrer au commando Hubert. La route est longue, il faut s'armer de patience. Il faut d'abord rentrer dans la marine, dans la spécialité de fusilier marin. Ensuite, on est formé à l'école des fusiliers marins à Lorient. Puis, être volontaire pour le stage commando, qui est déjà un premier écrémage très sérieux. Vous pouvez trouver pas mal de reportages sur le stage commando qui avait été fait notamment en 2005. C'est un envoyé spécial qui est resté assez emblématique, qui décrit bien l'ambiance et ce qu'on vit à ce stage. Une fois qu'on est breveté commando et qu'on a gagné son béret vert, on sert pendant quelques années au sein des unités de commando marine qui sont à Lorient, notamment le commando Trépel, le commando Jobert, le commando de Pinfantenu et le commando de Montfort. Après avoir servi quelques années là-bas, on refait un autre stage commando pour acquérir plus de compétences et être capable d'encadrer. On est certifié chef d'équipe commando et à ce moment-là, on peut postuler au cours des nageurs de combat, qui lui aussi est très sélectif, taux d'attrition d'à peu près 50%. Donc on fait d'abord un stage de plongée au sein de la marine, qui est le même stage pour tous les plongeurs de la marine, qui s'appelle le stage de plongeur de bord, qui dure 5 semaines. Et ensuite, on commence la sélection pour le cours des nageurs de combat, qui dure, grosso modo, qui s'échelonne sur une année scolaire, avec des sélections en octobre-novembre, et puis qui commence à proprement parler en décembre, et qui se termine en juillet. Pendant ce cours, on plonge quasiment tous les jours, sur des plongées particulièrement éprouvantes. C'est très sélectif, pas tant parce que très physique. Alors de fait, ça l'est, parce qu'il faut endurer le rythme des plongées. Mais il faut également être malin, savoir bien mémoriser, savoir acquérir des gestes techniques rapidement. Ce qui est sélectif, c'est le fait de pouvoir apprendre des gestes techniques et les valider dans la foulée pour en apprendre des nouveaux. À chaque plongée, on rajoute une brique. C'est-à-dire qu'on apprend quelque chose à une plongée. La plongée suivante, on va le restituer et apprendre une nouvelle chose. Et donc si au bout de 4 plongées, on n'a pas compris les gestes techniques de 2 jours avant, on va au carton.
J'ai eu l'honneur de passer beaucoup de temps avec votre unité. J'ai le sentiment qu'au-delà des capacités techniques et physiques, l'esprit, l'état d'esprit de la personne, pour moi, j'imagine, doit compter beaucoup dans cette sélection.
Alors l'état d'esprit compte énormément, puisque pour réussir le cours nageur, c'est pas un cours qui est fait pour les gens perso. On ne peut pas être perso, ne serait-ce que parce que quand on plonge, on est toujours sanglé, on est toujours en binôme, et on a besoin de son équipier. L'un du binôme qui est responsable de tenir les caps, d'être à la boussole et de savoir en permanence dans quelle direction on va et à quelle profondeur on se trouve, donc il est garant à la fois de la réussite de la mission et de la sécurité, puisque la profondeur, étant donné qu'on respire de l'oxygène à 100% dans un appareil à circuit fermé, la profondeur peut être dangereuse pour nous. Il faut pas qu'on navigue trop profond pour pas que la pression partielle d'oxygène devienne nocive. Donc l'un est focalisé sur le cap, l'autre est focalisé sur les temps. C'est-à-dire que sur chaque plongée, on a préparé la plongée en amont et on sait exactement à quel cap on doit naviguer pendant combien de temps pour rentrer dans le port, trouver notre objectif et repartir. Et donc ce travail d'équipe, il est primordial, au niveau du binôme d'abord et au niveau d'un groupe plus conséquent ensuite, tel que c'est pratiqué après dans les escouades du commando Hubert, qu'elles soient spécialisées en libération d'otages ou en navigation en propulseur sous-marin.
Dans la même veine, en 3 jours ici, je n'ai vu aucune brute épaisse que des gens ultra bienveillants, que je remercie d'ailleurs, qui ont été me chercher du matériel quand j'étais tout mouillé pour que je puisse repartir sur une navigation au sec. On est loin de cet esprit brut, bizutage, etc. Ça n'existe pas chez vous.
Il n'y a pas de brute épaisse, c'est pas un commando de brute épaisse, pas du tout. Il n'y a pas de gabarit formel, il n'y a pas que des gens qui ont des gros bras. Vous l'avez vu, un tireur d'élite qui a fait un nombre de missions hallucinant, qu'il est parachutiste chevronné et qu'il maîtrise parfaitement la navigation en engin sous-marin. Il y a tous les physiques qu'on peut imaginer, il y a tous les backgrounds qu'on peut imaginer. Ici, il faut être motivé, il faut être smart et avoir l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipage. Et en fait, les gens ici, ils n'ont rien à prouver. C'est-à-dire qu'ils ont passé tous les filtres. Alors, il ne s'agit pas de prendre le melon. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Mais, entre eux, ils ont été habitués à être extrêmement exigeants avec eux-mêmes. Du coup, ça crée, au sein de l'unité, une vraie émulation. Tout le monde a la volonté, vraiment, dans les tripes, d'aller, de donner le meilleur et de ne jamais être le maillon faible. Pas tant parce que derrière, ils seraient punis ou autre, mais juste parce qu'on ne peut pas se permettre, on n'a pas envie de décevoir. Et du coup, tout le monde donne absolument le meilleur de lui-même. C'est extrêmement gratifiant pour un commandant. J'ai pas besoin de leur demander d'accélérer. Ils accélèrent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que pour un commandant, il faut passer plus de temps le pied sur le frein que sur l'accélérateur. Les gens se donnent ici à 200% et sont très fanas de partager leur expérience, très bienveillants vis-à-vis de ceux qui arrivent, et c'est une vraie joie. La particularité du commando Uber, c'est que c'est pas uniquement un commando de nageurs de combat. C'est évidemment la spécialité phare du commando. Mais comme vous l'avez vu, on a beaucoup de spécialistes d'autres métiers de la marine. Alors on a des commandos qui ne sont pas certifiés nageurs de combat et qui font leur travail de commando au sein de l'unité. On a des mécaniciens, des électriciens, des manœuvriers, on a même des plongeurs, des mineurs qui sont utilisés à la fois pour leur expertise en plongée dans certains domaines et pour leur expertise des explosifs pour certaines autres missions. On a vraiment un panel large et on a besoin de chacun. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la mayonnaise prend et comment tout le monde arrive à vouloir atteindre cette perfection et qui est, je pense, très bien forgé au sein du cours nageur, puisque pendant ce cours-là, on va vous demander d'être tellement rigoureux dans la préparation de la mission, de la plongée que vous allez effectuer, dans la réalisation une fois sous l'eau, pour bien tous rappeler, bien que vous soyez dans le noir, dans le froid, avec la fatigue, avec l'angoisse d'avoir les bateaux qui peuvent bouger au-dessus de vous, d'entendre les moteurs des bateaux qui tournent en ne sachant jamais s'il y en a un qui peut passer ou pas. Alors, l'entraînement, toutes les mesures sont prises, mais néanmoins, c'est quand même pas naturel d'être de nuit sous l'eau dans un port. Cette exigence qui est demandée de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit aux cours nageurs, elle rayonne partout par capillarité.
Est-ce que vous avez des mots-clés pour caractériser le commando Uber ?
Je dirais d'abord que c'est une famille. Je dirais exigence, décontraction.
Vous dites exigence et décontraction ? Ces deux valeurs sont-elles pas antinomiques ?
Alors, à mon sens, pas du tout. Parce que c'est justement parce que vous êtes extrêmement exigeant, parce que vous savez exactement ce que vous allez faire et que vous avez réfléchi à tous les canons conformes et que vous vous êtes entraîné correctement, que vous pouvez vous permettre d'être décontracté. La décontraction, elle impose aussi une certaine humilité. C'est-à-dire qu'on se permet de décontracter que quand on sait qu'effectivement, il peut tout nous arriver aussi.
Combien est-ce que vous êtes au commando Uber ?
Joker.
Vous êtes organisé selon des spécialités bien réparties. Est-ce que vous pouvez juste nous les citer ?
Les spécialités du commando Uber. Donc, on a un socle commun pour les nageurs de combat qui est l'action offensive subaquatique. C'est-à-dire, d'ailleurs, on n'a pas défini ce qu'était un nageur de combat. Un nageur de combat en France, c'est quelqu'un qui est capable de plonger pendant 4 heures et qui plonge avec un appareil en circuit fermé en respirant de l'oxygène pur, et qui navigue avec une boussole et une montre, sans jamais sortir la tête de l'eau, pour trouver son objectif, poser une charge explosive, et repartir. Ça, c'est le contrat de base, c'est ce qu'on apprend au cours nageur. Ça prend du temps, ça veut dire qu'il faut être extrêmement à l'aise dans l'eau, ça veut dire qu'il faut être suffisamment malin pour retenir toute la plongée par cœur, parce qu'on prend pas de notes sous l'eau. Maîtriser la navigation, maîtriser sa vitesse, maîtriser son anxiété pour justement s'y retrouver sous l'eau sans avoir énormément de repères. Et en plus de ça, on a des gens qui sont très spécialisés dans le tir d'élite à tous les calibres, à terre comme depuis un hélicoptère. On a des gens qui sont spécialisés dans la libération d'otages, que ce soit en mer ou à terre. Ça suppose de maîtriser des moyens d'insertion. Donc pour eux, ça va être la plongée en équipe avec le gilet pare-balles, les armes, les casques et tout ce qui va bien pour s'approcher de l'objectif. Ensuite, pour grimper à bord, pour la partie maritime. Ou alors, arriver en Zodiac et grimper à bord des bateaux. Et pour les parties terrestres, ça va être l'infiltration pédestre, l'infiltration en véhicule, et également l'infiltration sous voile, c'est-à-dire le parachutisme, donc pour être largué loin de son objectif et s'infiltrer discrètement grâce à son parachute jusqu'à proximité de l'objectif. Donc tireur d'élite, libération d'otages, renseignement également, avec tous ces vecteurs de mise en place. Et puis la spécialité phare du commando, c'est évidemment aussi les propulseurs et les tracteurs sous-marins, qui nous permettent de nous infiltrer sur des distances beaucoup plus longues, avec des matériels ultra-technologiques, qui nous permettent de faire soit du renseignement, soit des actions de sabotage, soit toutes sortes d'actions qu'on peut imaginer dans le camp d'en face. Et autour de tout ça, pour maîtriser tous ces vecteurs, il y a énormément de domaines qu'il faut savoir maîtriser. C'est-à-dire, on a des équipes qui sont dédiées à expérimenter des choses sur le sabotage à terre ou en mer, sur le déminage. On travaille évidemment le secourisme de combat pour être capable de traiter des blessés. On va travailler avec toutes les autres composantes de la marine et des autres armées, que ce soit les avions pour nous larguer, des sous-marins pour nous mettre en place, des bâtiments de surface de la marine pour nous mettre en place. On travaille avec tout le monde et c'est ça qui fait la magie de ce métier. On est à la poignée de l'éventail de toutes les capacités des forces armées. Je crois qu'on travaille avec quasiment tout le monde. Ce que je trouve magique, c'est d'avoir des hommes qui sont capables d'être sur un théâtre en Afrique, de discuter parfaitement avec un vieil adjudant de la Légion étrangère sur le déminage. Un quart d'heure après, de discuter avec un équipage d'un avion de l'armée de l'air sur comment est-ce qu'ils vont être largués dans telle zone. Et puis trois mois après, ils sont revenus à Toulon. Ils vont faire un exercice avec un sous-marinier, ils vont parler le même langage. Et deux semaines encore après, ils seront sur un bateau de surface. Et là, ils vont parler au pacha du bateau et ils parleront le même langage. Et d'avoir des types comme ça, qui sont ultra performants dans tous leurs domaines, et qui sont interopérables avec tout le monde, c'est vraiment un bonheur à commander.
Et donc vous êtes des surhommes du coup ?
Et non, on n'est pas des surhommes. On n'est pas du tout des surhommes. Il faut arrêter de croire qu'on est des surhommes. Pour venir à Uber, il faut de la volonté, il faut être un peu physique quand même, on ne va pas se mentir. Il faut être smart, il faut avoir envie, et puis il faut avoir un peu de chance aussi, puisque les sélections sont éprouvantes à tous les stades, hein, dès le stage commando et au cours nageur. Il y a plein de gens géniaux qui n'ont jamais réussi à venir au commando Uber parce qu'ils se sont cassés la jambe au mauvais moment, le bras au mauvais moment. Ça peut arriver et tout le monde ne peut pas forcément supporter l'oxygène pur en plongée aussi. C'est pour ça qu'il y a des sélections. Certains, physiologiquement, ne sont pas du tout à l'aise dans l'eau ou autre. Donc on peut... Enfin, il y a des types géniaux à Uber, mais tous les types géniaux ne sont pas à Uber.
Le sens de ma remarque sur le fait que vous étiez des surhommes, c'est plus... Comment est-ce que vous arrivez à exceller dans autant de domaines ? Finalement, vous êtes spécialiste de tout.
Alors, les gens s'entraînent beaucoup, passent beaucoup de temps à s'entraîner. Et on a aussi des gens qui arrivent après pas mal d'années dans les unités de commando marine. Donc, ils ont une formation qui est déjà très longue. Ils ont déjà acquis de l'expérience avant de venir. On ne recrute pas directement. On recrute dans des unités qui, elles-mêmes, sont déjà très sélectives. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont vraiment un background sérieux. En plus de ça, comme je le disais, il faut être vraiment smart. Et donc on a intrinsèquement des gens qui apprennent vite. Ils font un stage, ils ont compris. Il y a généralement pas besoin de le répéter deux fois. Donc ils vont très vite. On bénéficie de plein d'infrastructures qui nous facilitent, de moyens de soutien qui nous facilitent les choses, qui font qu'on ne perd pas de temps. On arrive dans une même journée. Il n'est pas choquant de commencer à 7h du matin, de faire 3 sauts en para, revenir pour une séance de tir entre midi et 2, et le soir, être à l'eau en plongée pour une plongée de 4 heures.
Sur la journée d'hier, j'ai fait une activité de plus que le nombre d'activités que vous venez de citer, effectivement.
Je confirme. Et donc ça va très très vite. C'est éprouvant, mais ça va très vite. Alors c'est pas comme ça tous les jours, heureusement. Et c'est justement pour ça qu'on n'est pas des surhommes. Il y a des moments où il faut dormir. Mais globalement, ce que j'ai envie de dire à un jeune qui se pose la question, c'est « il faut venir ». C'est une aventure épatante. Une aventure en tant que telle, parce qu'on voit des choses extraordinaires en mission, parce que c'est une aventure humaine phénoménale. Et dès les premières sélections, puisque quand on fait un stage commando, on apprend énormément sur soi-même, on apprend énormément sur la patte humaine, on est baigné dans la difficulté avec des gens qui donnent toutes leurs tripes, et on se crée une fraternité d'armes qui est magnifique. Et tout au long du cursus, c'est comme ça. C'est une aventure absolument génial. Il y a des obstacles pour venir, c'est difficile, on va pas se mentir, c'est très sélectif, mais il faut y aller, ça se tente. Quand on a 18 ou 20 ans, c'est absolument magique de rentrer dans ce métier-là. Et si on n'arrive pas au bout, et si on n'arrive pas au commando Uber, mais il y a des choses merveilleuses à faire dans la marine, quel que soit le métier qu'on a choisi. Qu'on soit fusilier marin et qu'on veuille devenir commando ou pas, qu'on soit mécanicien, qu'on veuille servir sur les bateaux, mais qu'on veuille faire une petite expérience au commando Uber ou dans les autres commandos marines qui sont à Lorient, qui ont aussi besoin de ces spécialités, notamment le commando Ponchardier qui a des similitudes avec nous. C'est une aventure géniale. C'est une aventure géniale.
Alors, à propos d'aventure, comment est-ce que vous arrivez en entraînement à reproduire la fatigue? Donc pour ça, il suffit de s'éprouver, de ne pas dormir. Mais est-ce que vous arrivez à répliquer le stress que vous pourriez avoir en mission, ou dans votre cerveau, ça dit toujours « c'est dur, mais c'est pas risqué ». Est-ce que vous arrivez en fait à préparer à vraiment des conditions réelles?
Oui, puisque les entraînements en tant que tels sont tous sauf anodins. C'est pas un sport de masse de sauter d'un avion qui vole très bien. C'est pas un sport de masse de plonger sous l'eau la nuit. C'est pas un sport de masse de faire des séances de tir à plusieurs dans un environnement complexe. Rien n'est facile. C'est pas un sport de masse de grimper à bord d'un ferry en route de nuit avec son équipement. Rien n'est anodin et rien n'est pris à la légère. On peut pas se permettre. Même à l'entraînement, les difficultés peuvent arriver. Donc oui, il y a un niveau de vigilance qui est très comparable avec ce qui est vécu en opération. Et parce qu'on a ce niveau de vigilance en entraînement, eh ben on sera bon en opération. Pourquoi ? Parce qu'en opération, quand ça commence à tirer, on perd énormément de ses moyens. Quelle que soit la personne, forcément, on va perdre ses moyens. Et la seule chose qui reste, c'est tout ce qu'on aura acquis à l'entraînement. Donc il faut effectivement avoir ce niveau d'exigence à l'entraînement. Après, la vigilance à l'entraînement, elle est évidemment technique. Il y a forcément le stress qui monte, la pile qui monte quand on va même faire une libération d'otage à blanc, entre guillemets, avec des cartouches de peinture. Ce sera jamais le même stress, on peut pas se mentir. C'est peu, inconsciemment, engager sa vie ou se préparer, c'est pas la même chose. On a beau être dans des conditions les plus proches possibles, et on poussera toujours pour le faire, c'est jamais la même chose de savoir qu'en face, il y a un type avec un flingue à balles réelles, car un seul objectif, c'est de vous descendre. Ce ne sera jamais la même chose.
Justement, parlons du concret. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous êtes déployé sur des missions en réel? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes content d'y aller enfin parce que vous êtes entraîné pour ça? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on arrive? Est-ce que c'est variable? Est-ce que ça dépend des gens?
Tout le monde a envie d'y aller. Parce que c'est pour ça qu'on s'est engagé. On est là pour servir notre pays et remplir les missions qui nous sont confiées. Tout le monde a évidemment envie d'y aller. Parce que ça fait partie de l'aventure et c'est ce pourquoi on s'entraîne et on s'entraîne dur. Évidemment, il y a du stress quand il s'agit de s'équiper, de mettre son gilet pare-balles, de mettre son appareil de plongée. Effectivement, là, le stress monte. Et on se rassure avec l'entraînement qu'on a vécu, on se rassure avec la planification qu'on a fait, avec toutes les répétitions de cette mission spécifique qu'on a pu faire, que ce soit des répétitions dans les conditions du réel ou des répétitions mentales. On fait beaucoup de répétitions mentales au commando, ou des drills à blanc, vous verrez sur le commando, des gens qui font comme des balais. En fait, ils répètent leur plongée dans la cour en répétant exactement chaque geste qu'ils vont effectuer. Donc oui, il y a du stress. Les gens veulent y aller et ils acceptent ce stress.
C'est assez ironique que je vous pose la question à vous, commandant. Est-ce que les personnes que vous dirigez ont le droit de vous dire non ?
Uber, c'est une famille, mais c'est d'abord une unité militaire. Dans l'armée, et la manière dont on le voit encore plus dans les forces spéciales, la vraie loyauté, c'est la capacité à dire non. À dire non, chef. Là, on va dans le mur, chef, pour telle raison, telle raison, telle raison. Alors évidemment, il faut mettre les formes. C'est pas la foire d'empoigne. Oui, les gens peuvent dire non. Parce que c'est une famille, il y a une vraie proximité et une vraie cohésion. D'autant plus que tous les officiers font le même cours nageur que les officiers mariniers. Officier marinier, c'est l'appellation marine pour les sous-officiers. Donc au cours nageur, on porte pas de galon. On est candidat au cours nageur, comme tout le monde, tout mélangé, on reprend ses galons quand on arrive ensuite à Hubert, et puis on a des fonctions différentes. Mais quand on en a plongé ensemble pendant un an, je peux vous assurer qu'il y a des liens qui se créent. Et donc, ça permet aussi de savoir, parce qu'on vient du même creuset, qu'on peut parler franc. Ici, on parle franc. Donc les gens peuvent dire non. Il faut le dire à bon escient, intelligemment. Mais on a l'image d'Épinal dans les armées. Parce que ça, ce que je dis, c'est vrai à Hubert, mais c'est vrai partout, je dirais, dans les armées. Où tout le monde a à cœur la bonne réussite de la mission. Et donc la loyauté, c'est de savoir dire non, chef, on va dans le mur. Et pour telle et telle raison, le chef de prendre en compte ou pas, puisque le chef a peut-être aussi ses bonnes raisons d'imposer telle décision. Et à la fin, une fois qu'on a pu exprimer son avis, le chef tranche et on exécute. Mais l'image d'Épinal de le doigt sur la couture du pantalon, il est très 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 peu vu dans les armées en général. Les gens ont vraiment à cœur de dire ce qu'ils pensent et c'est bien reçu.
On va basculer sur une partie plus sur la société. La première question, pourquoi est-ce que vous avez besoin de cacher votre métier, votre identité auprès du grand public ?
Il existe un décret qui stipule que les membres de certaines unités des forces armées doivent être tenus secrets. Donc, on évite d'en faire trop de publicité.
Et si je vous demande pourquoi, vous allez me répéter Joker ?
Je peux dire Joker, après ça, je pense que ça tombe un peu sous le sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de savoir qu'un tel est dans telle unité, puisque après ça peut devenir une cible pour des ennemis potentiels.
Quand on revient d'une opération où on a a priori vécu des choses pas faciles, ça fait quoi de revenir dans la vie normale ?
C'est à la fois bizarre et très agréable. On relativise pas mal de choses, pas mal de petits tracas du quotidien. Et on retrouve des choses qui nous manquaient vraiment quand on était déployé. J'ai le souvenir, quand j'étais en Afghanistan, je rêvais presque d'être dans un embouteillage sur le périph', en me disant, au moins, quand on est sur le périph', dans un embouteillage, on est peinard. On va pas se faire tirer dessus et tout va bien. Quand j'étais en Afghanistan, je me disais, tiens, avant je m'énervais quand je ratais un train, maintenant je crois que je m'en fous. Bon, au final, on revient vite à la vie normale, fort heureusement, et je suis toujours gavé quand je suis dans un embouteillage, et toujours gavé quand je rate un train. Mais il y a une période d'adaptation qui n'est pas toujours simple, parce qu'on a vécu en vase clos pendant quelques mois des choses très fortes, sans aucun souci bête du quotidien. On n'a pas été préoccupé par la facture, par la panne de la voiture, par la révision, le contrôle technique. C'est tout bête, hein, mais on était un peu dorloté, le mot est fort, mais on était dans notre bulle. Et quand on sort de la bulle, il faut se confronter à ses responsabilités de la vie normale. Puisque la vie normale, c'est la vie que vous connaissez et que tout le monde connaît. C'est ça, la vie normale. La vie normale, ça ne doit pas devenir quand on est déployé. Sinon, c'est un coup à vriller.
Alors justement, j'avais trouvé une interview d'une personne qui disait que quand on a partagé cette vie si intense pendant des mois... Et au retour, on revient dans ce monde où on se dit « Mais est-ce que je peux vraiment faire confiance à ces gens ?» etc. Il y a une adaptation qui est vraiment extrêmement compliquée.
L'adaptation, elle est compliquée, mais elle est capitale. C'est-à-dire qu'il faut revenir dans la vie normale, il faut vous faire confiance aux gens. Forcément, on a vécu des choses extrêmement fortes avec ceux avec qui on est parti, et c'est pour ça qu'on parle de fraternité d'armes. Et ça, elle reste, quand je disais « Hubert est une famille et ça marque à vie », bah oui, c'est les gens avec qui on a vécu des moments forts, on les gardera à vie. Mais on retrouve ça dans énormément d'unités. Et c'est aussi pour ça qu'on voit des anciens combattants qui, extrêmement vieux, insistent encore pour commémorer leurs camarades qui soit sont morts sur place, soit sont morts entre-temps. Et on ne peut pas l'enlever des tripes de quelqu'un qui est parti au combat. Et c'est vrai dans tous les pays, et c'est vrai à toutes les époques. Ce mot de fraternité d'armes, il est très fort et il prend tout son sens au commando Hubert, mais il prend tout son sens dans toutes les unités qui sont parties au combat.
Quelle relation vous gardez avec vos frères d'armes qui ont quitté le commando, justement ?
On garde toujours des liens. On se tient au courant, on s'appelle. Parfois, on peut ne pas se voir pendant des années, mais quand on se retrouve, il y a quelque chose de spécial. Il y a un truc qui se passe. On s'oublie jamais et on... Les types peuvent avoir changé de vie complètement. On a vécu un truc qu'on ne nous enlèvera jamais.
On va passer très rapidement sur une partie plus technologique. Dans quelle mesure est-ce que les personnes ici prennent part à l'innovation dans le matériel ?
Alors, ici, les gens ont plein d'idées. Ils aiment beaucoup innover. En fait, c'est le mix des gens qui utilisent de la très haute technologie qui a été conçue par des ingénieurs qui coûtent très cher et tout ce que vous voulez, et puis du commando qui a été habitué à se débrouiller avec un bout d'élastique et son opinel. Et la conjonction des deux, elle est extrêmement intéressante parce que vous aurez des problèmes extrêmement ardus qui seront résolus avec un truc complètement loufoque, mais qui marche. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le truc qui marche. Alors évidemment, quand en plus ça peut être fait rapidement et pas cher, on est fanat. Les gens ici, et quelles que soient les spécialités d'ailleurs, aiment beaucoup bricoler, innover. Ce qui n'est pas toujours évident ensuite, c'est de passer à l'échelle et d'arriver à industrialiser le produit. Mais ils sont à fond dans l'innovation. Et en fait, l'innovation, elle n'est pas que technologique. L'innovation, elle est aussi dans les procédures, dans les manières de travailler. Toujours challenger, ok, mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? On a fait comme ça pendant des années, oui. Mais on a maintenant tel petit appareil technologique qui nous permet de repenser tout au final. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est d'avoir une gymnastique intellectuelle qui fait que tout est challengé. Ça ne veut pas dire que tout est abalayé, au contraire, on a un héritage de nos anciens. Et toujours ce petit plus de dire, comment est-ce que je peux gagner du temps ? Comment est-ce que je peux être plus discret, aller plus loin, avec les mêmes moyens ? Et j'ai eu l'exemple récemment qui était particulièrement marquant d'une opération qu'on préparait. On était un peu limité dans l'élongation qu'on devait faire sous l'eau. Et avec le même matériel, en réfléchissant sur la manière de plonger, les nageurs ont réussi à doubler la distance franchissable. Je trouvais ça, j'étais bluffé. Je trouvais ça génial. Le même matos, mais parce qu'on se creuse un peu plus la cervelle, qu'on va adapter ci, ça, ça, on va deux fois plus loin. Et c'est vrai dans tous les domaines.
Un peu de science-fiction, une projection où on a vu une marque américaine montrer sur les réseaux sociaux un robot qui était capable d'attraper un sac avec des outils, de monter sur un échafaudage, de le donner, et ensuite redescendre de cet échafaudage en faisant un backflip. C'est très drôle parce qu'il est dans une configuration de chantier, mais est-ce que vous voyez collaborer avec des robots dans un avenir proche, voire être remplacé parfois ?
Alors, il y a... Dans la question que vous posez, il y a un certain nombre de domaines qui m'échappent un petit peu. Où on en est dans les armées françaises, dans la robotisation, j'ai pas suivi ça de près. Ce qui est certain, c'est qu'on aura toujours besoin d'hommes, on a toujours besoin de prendre des risques avec des hommes. On observe dans les conflits récents et dans les innovations technologiques de plus en plus de dronisation. C'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai sur les airs, en surface, en terrestre ou sous l'eau. Il faudra collaborer. Il faudra, mais c'est un champ des possibles extraordinaire. J'ai pas du tout peur qu'on pique la place des nageurs de combat. La dronisation, la robotisation, tout ce qu'on veut, c'est un démultiplicateur des capacités qui peuvent être offertes. Donc c'est absolument génial, mais il va falloir y aller petit à petit. Après, c'est une matière qui coûte cher et compagnie. Il faut faire attention à l'effet de buzz, de dire attention, bientôt, on sera tous remplacés par des robots. Oui. Oui. Oui, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on a beau avoir une armée ultra technologique, du matériel de pointe, tout ce qu'on veut. À la fin du jour, la guerre, c'est un flingue et des tripes. C'est la volonté de vaincre son adversaire, vaille que vaille. Et au final, on a dans l'histoire militaire de tous les pays des exemples de types qui étaient moins bien équipés, qui étaient moins nombreux, mais qui avaient une telle volonté de vaincre qu'ils ont mis au tas des armées extraordinaires.
Avant que je vous pose une dernière question, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez nous partager ?
Ce que j'ai envie de partager, c'est l'aventure extraordinaire que j'ai vécue et que les gens vivent ici, au commando Hubert, dans les commandos marines ou dans toutes les unités de la marine. Alors dans un milieu, le milieu maritime qui est absolument génial. Alors pour nous les commandos, on n'est pas uniquement dans le milieu maritime, on est aussi à terre, dans un endroit où il n'y a pas du tout la mer. Quand on a 20 ans et qu'on a envie de servir et qu'on a envie de trouver un sens à son existence, je trouve ça fabuleux de pouvoir donner le meilleur de soi-même, être exigeant et revenir avec des expériences hors du commun et une fraternité hors du commun.
J'ai derrière moi l'insigne du commando Hubert, mais j'ai pu récupérer un polo sur lequel on voit un insigne avec un crocodile, un parapluie et un bâton de dynamite. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le sens ?
Ouais, alors ça c'est le crocodile, le parapluie et le bâton de dynamite, c'est l'insigne non officiel d'Hubert. Le crocodile symbolise la partie amphibienne du commando, qui se déplace sous l'eau, qui sort de l'eau discrètement, et puis qui a une grande bouche. Certes, mais surtout qui a des dents pour mordre. Le parapluie, c'est pour le côté parachutiste. Donc là, sur le logo que vous évoquez, c'est plutôt, ça ressemble un peu à une ombrelle, mais c'est le côté ludique. Et le bâton de dynamite, c'est le métier de base du nageur de combat, d'aller mettre une charge explosive là où on l'attend pas. Et la combinaison des deux fait un parapluie, un crocodile et un bâton de dynamite.
J'ai cru entendre, en me baladant dans les couloirs, que ce parapluie avait une deuxième signification si on lui enlevait sa toile.
Si on ne garde que les baleines du parapluie, c'est ce qu'utilisaient nos anciens lorsqu'ils effectuaient leur plongée pour arriver sous l'objectif. Une des premières défenses contre les nageurs de combat, c'était de mettre des fils de pêche avec des hameçons le long du franc-bord de tous les bateaux et relier aux fils de pêche des petites clochettes. Comme ça, quand le matelot qui était de quart à la coupée entendait la petite clochette, il disait qu'il y avait peut-être du monde en dessous et il pouvait grenader. Et pour éviter de se faire accrocher la combinaison néoprène avec les hameçons qui pendaient, nos anciens plongeaient avec des parapluies sans la toile, mais uniquement les baleines, pour écarter les fils de pêche à leur passage. Alors, je ne l'ai pas pratiqué moi-même, mais c'est l'autre signification du parapluie.
Commandant, je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir fait confiance et de m'avoir accepté parmi vos hommes pendant 72 heures. C'est vraiment une grande chance pour moi de vous avoir rencontré. Je tenais également à remercier très franchement toutes les personnes, je ne pourrais pas toutes les citer, ceux qui ont dormi 3 heures pour m'emmener sur un exercice et qui se sont tapés 4 heures de Zodiac dans une mer démontée. Tout le monde a été aux petits soins quand j'avais les pieds mouillés pour aller me trouver des chaussures sèches. J'ai vraiment été accueilli d'une manière extraordinaire et je vous en remercie.
C'est un plaisir, je suis ravi de vous avoir ouvert les portes. Nous, on est Fana, qui est du monde qui vient de nous voir, qui rentre chez nous. Donc faut pas hésiter, la route est longue, mais la route est belle.
Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, il s'agit de mon documentaire en immersion dans le secret du commando Hubert.